Oui, bah bonjour à tous. C'est vrai que c'est le temps des vacances. Et bah pendant les vacances, on est moins pris par les activités professionnelles. Alors parfois, des fois, on pense avoir moins de temps de disponible, mais au contraire, c'est une question de priorité. Choisissons ce temps de vacances pour lire. Voilà, il y a une bonne bibliothèque à l'église, un responsable qui prépare, qui classe les livres. Quelques-uns qui les lisent et qui font des petits commentaires attractifs pour donner envie, pour donner soif de la lecture. Mais c'est une richesse. Alors moi, je vais faire la même chose. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas d'action auprès de cet auteur, mais j'aime beaucoup Alain Auderset. Il a commencé à écrire il y a une vingtaine d'années. J'ai découvert avec stupéfaction qu'il n'y a aucun de ses livres dans la bibliothèque, à moins que j'aie mal vu. Mais c'est un auteur qui mérite sa place, d'autant plus qu'il fait des BD, donc c'est facile à lire ou à regarder. Je ne les ai pas vus, alors désolé, s'il y en a, il faudra les mettre au lieu de les mettre en bas, il faudra les mettre à hauteur des yeux. Bref, tant mieux. Merci Simon pour cette bonne nouvelle. Donc dans différentes BD et dans ces livres, là c'est en fait son témoignage, comment il raconte son histoire, comment il est arrivé à écrire des BD et tous les défis qu'il a relevés. Et c'est en fait une histoire de vie, de combat spirituel. C'est aussi pour cela que j'aimerais vous le présenter. C'est une personne qui vit au quotidien comme si Jésus était à côté de lui. Voilà, il se promène dans la forêt, puis il parle à Jésus, il fait des trucs, quand on voit ça de loin, ça paraît abracadabrant, mais non. Il vit ça naturellement, Jésus au quotidien. Alors j'essaye par moi-même de le vivre aussi, hein, Jésus au quotidien, et j'aimerais aussi vous encourager à vous saisir de son exemple, des quelques exemples que je donnerai aussi de mon témoignage, ben pour vous approprier cet ami Jésus qui veut, il le dit dans sa parole, je ne suis pas votre maître. Vous n'êtes pas mes serviteurs, mais je suis votre ami. Il veut cette relation d'amitié. Il ne veut pas une relation de Dieu à adepte ou quoi. Non, il veut vivre au quotidien avec nous. Alors, bien entendu, Auderset, ce n'est pas ma Bible. Je vous rassure, je garde la Bible en référence. Mais Auderset pointe vers la Bible. Et c'est cela que je veux souligner. Donc, quand vous... Ou si jamais vous sentez interpellé à lire ces livres ou à ces BD, eh bien, je vous encourage en parallèle à vraiment tourner le regard vers Jésus parce que c'est ça. En fait, son doigt, il nous pointe vers Jésus. Je vais donc utiliser quelques scènes de la vie quotidienne, de voir comment Dieu a agi dans la Bible. Comment Dieu a agi dans la vie de Alain Auderset et comment Dieu a agi dans ma vie pour que vous ayez aussi un exemple plus proche. Et donc, c'est aussi pour vous faire réfléchir vous-même, pourquoi pas, dans une situation de la vie de tous les jours, mais quelle attitude vous avez? Est-ce que vous êtes dépité parce que rien ne va plus? Ou au contraire, vous prenez la main de Jésus parce que même si les problèmes sont toujours là, mais avec la main de Jésus, c'est quand même autrement. Prenons l'exemple de la maison, de notre domicile. Alors, un exemple de la Bible, Abraham. Il n'avait pas une maison en dur, c'est vrai, c'était une tente. Néanmoins, alors qu'il était en Mésopotamie, Dieu a promis à Abraham de lui donner comme domicile tout le pays de Canaan. Imaginez une propriété de quelques hectares, quelques kilomètres carrés, voire centaines de kilomètres carrés. Et Dieu lui a promis cette magnifique propriété. Chouette. On le lit dans la Genèse au chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. C'était un défi. Dieu prend soin de ses enfants, mais il faut aussi lâcher d'autres choses en contrepartie. Et Abraham n'a pas hésité. Il a lâché ce qu'il possédait en Mésopotamie pour aller dans le pays de Canaan. cette promesse est réalisée avec Abraham et les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont planté leur tente en Canaan et ont fait paître leurs troupeaux dans ce magnifique pays. Cela s'est partiellement réalisé au moment de la conquête du pays par Josué après l'Exode. Je passe rapidement, hein, c'est des histoires connues, mais à défaut, si ça vous interpelle, la Bible est là pour vous rappeler toutes ces histoires. Et enfin, c'est surtout pendant le règne du roi David, bien plus tard, que le royaume de Juda et d'Israël s'est étendu sur tout le pays de Canaan et même au-delà, jusqu'à l'Euphrate. Et c'est un clin d'œil, ce sera aussi la réalisation de la promesse que Jésus nous a faite. Il nous a dit, je vous prépare une place, vous aurez une maison dans mon royaume. Merveilleuse promesse, notre demeure d'aujourd'hui sur terre, bien sûr Dieu nous pourvoit nos besoins, mais c'est aussi dans cette vision d'avoir une maison dans son royaume. Alors Alain Auderset n'a pas fait comme tout le monde, et je vous lis donc un petit extrait de son livre. La maison. Ça commence par le messager. Il lui dit, un jour, cette maison sera la tienne. Telles sont les paroles de Luc, mon ami pasteur, en me désignant l'étrange bâtiment devant moi. Mais voyons Luc, réfléchis, je suis beaucoup trop pauvre pour me l'acheter. Petite parenthèse, Alain Auderset habite en Suisse, et les maisons en Suisse sont encore plus chères qu'en France, donc c'est déjà pas peu dire. Avec ma famille, nous vivons en dessous du minimum vital. Franchement, comment peux-tu imaginer un truc pareil ? Luc ne dit rien, mais il a ce petit sourire agaçant qu'ont ceux qui savent quelque chose que tu ignores. Le retour discret. Les années ont passé, et aujourd'hui, l'air de rien, Luc m'annonce, « Ça y est, la maison est à vendre. » Ce même sourire qui lui tord la bouche obstrue ainsi la suite de sa réflexion. Mais celle-ci étant plus forte que lui, s'échappe par son regard et me dit, « Alors, tu vas l'acheter, bien sûr. »« Ah, Luc, tu le sais comme moi. Ma situation financière n'a pas changé. » Et je, « Hein ? De quoi parles-tu ? Mais moi, j'ai rien dit. » Il a cet air détaché qu'ont les coupables qui veulent passer pour innocents, en sifflotant un air banal. « Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à avoir des airs normaux ?» se dit Alain. Le détour distrait. Alain, entre parenthèses, il va très souvent dans la forêt pour prier Dieu, même si ce n'est pas le chemin le plus court, mais ça lui fait gagner du temps. Et donc, il est là, comme à son habitude, dans la forêt. Et ce tordu de chemin n'en fait qu'à sa tête. Et à cause de lui, je suis nez à nez avec la maison en question. Maintenant, ce sont mes pensées qui, à mon insu, brodent tout un tricot de fantasmes. C'est vrai, ça serait idéal. Mon atelier en bas, ma famille juste au-dessus, cool. Et paf, la réalité, qui, comme chacun sait, ne nourrit qu'aversion pour la broderie, me gifle de sa logique implacable et me sort de mes rêves. Mais tu n'as pas un rond. Le lendemain, rebelote, le chemin, profitant de mon absence, je suis souvent dans la lune, me dépose pile poil au même endroit, face à la maison. Ah, c'est pas malin, hein ? Bon, Seigneur, mettons les choses au clair. Dans ce monde-ci, ça ne marche pas comme ça. Il faut de l'argent pour acquérir un bâtiment. Tu comprends, non ? Je devine alors qu'il a le même sourire de connivence que Luc. C'est de là me cache quelque chose. Je ne me fais pas d'illusions. Luc, le chemin, Jésus vont utiliser de complicité pour que chaque jour, moi et mon justicier distributeur de baf, boum, la réalité, nous nous retrouvions sur ce même point de départ. Alors, affrontons le problème. Le banquier. Comment qu'on fait pour acheter une maison ? Bah, il faut aller à la banque. Les médias locaux parlent souvent de moi. Je suis déjà connu. C'est Alain qui parle. Il a, entre parenthèses, été primé au festival de Angoulême. Et donc, le banquier me reconnaît tout de suite. Au ton de sa voix, j'ai l'impression qu'il est convaincu. J'ai dû venir avec la limousine et mon chauffeur m'attend dehors. C'est une blague. Ah, j'aimerais acheter une maison. Est-ce que vous me prêtez de l'argent ? Mais bien sûr, monsieur Odersey. Asseyez-vous. Indiquez-moi votre salaire mensuel.
Salaire ?
Ça ne dépend pas de moi, c'est l'avis d'un artiste.
Et là, le banquier, désolé.
Vous voyez, ce n'est pas possible. On ne prête de l'argent qu'aux riches.
Ben oui, il fallait y penser.
Je rentre à la maison. Je raccourcis un petit peu parce que sinon, ça va être trop long. Et puis, il est tout dépité. Il explique à Dieu, mais voilà, tu m'as envoyé chez le banquier, mais ça n'a pas marché. Hein. Quelques jours plus tard, des personnes âgées, un couple, vient voir Alain et lui disent, nous avons le projet d'investir à la bourse.
C'est un truc d'adulte. Ça, c'est aussi une blague de Alain.
Il fait toujours des petites blagues. Hein. Franchement, c'est rigolo à lire. Et ce couple de personnes âgées, tout d'un coup, ils disent à Alain, mais Dieu nous a convaincus que c'est en toi que nous allons investir. Nous te donnons 100 000, nous te prêtons, attention, c'est les Suisses quand même, ils ne donnent pas, ils prêtent, nous te prêtons 100 000 francs suisses, ça fait 125 000 euros, et dans 40 ans, tu nous les rendras. Mais comme c'est les personnes âgées, bah, dans 40 ans... Bref, bien entendu, avec 125 000 euros dans la poche, 100 000 francs suisses, il retourne chez le banquier et là, ah, mais bien sûr, monsieur Odersey, ben, il n'y a pas de problème. Et il a ainsi sa maison. Voilà. Une façon, en étant à l'écoute de Dieu, de permettre à Dieu de satisfaire à nos besoins. Moi et Laurence, ou Laurence et moi, devrais-je dire, quand nous étions jeunes mariés, nous devions trouver un appart. Nous n'étions même pas encore mariés. Nous allions nous marier. Donc, nous devions en urgence trouver un appartement en région parisienne. Et dans les agences spécialisées, les magazines payants, enfin bref, on a tout essayé. Ça ne marchait pas. On passe des jours et des jours, on court, on téléphone, rien à faire. Et une nuit, Laurence a un rêve. Nous aurions un appartement avec un loyer de 800 euros. 800 francs français, excusez-moi, c'était il y a quelques années. Eh oui. Et le lendemain, dans les annonces, paf, l'appartement de deux pièces, super grand, 28 mètres carrés à Paris, 800 francs français. Génial. Le propriétaire a été difficile à convaincre. Comment, vous, une jeune fille, vous voulez un appartement? Ah, mais oui, ben, je vais me marier. Mais vous voulez quitter vos parents? Non, non. Et votre mari, c'est quoi? C'est un Africain? C'est quoi? C'est... Non, il vient de l'Est. Ah, de l'Est. Ah, bravo. Et on a tout signé. C'est comme quoi il y a des choses bizarres dans la vie. Bon, ça, c'est la maison. Il faut que je regarde l'heure quand même. Hein. Quelle heure il est? Oui, ça va. La voiture. Jésus avait besoin d'un moyen de locomotion. Alors, comment il a fait? Il a envoyé ses disciples pour en trouver un. On le lit dans Marc 11, verset 1 et jusqu'à 4. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, à l'instant. » Il le laissera venir ici. Les disciples partent, ils trouvent l'anneau attaché près de la porte, dans la rue, et ils le détachent pour que Jésus puisse avoir son moyen de locomotion et arriver à Jérusalem. Alain Odersey a fait pareil. Il avait besoin d'une voiture. Il avait une vieille, je crois que c'est une Twingo, hein, rouge, qui faisait toutes sortes de bruits, et puis au bout d'un moment, elle était vraiment au bout du rouleau, donc il a dit, Seigneur, mais quand même, je pourrais quand même avoir une belle voiture. Alors, comment il a fait? Je vais résumer. Dieu doit se dire que je fais un caprice. Il a sûrement raison. Parce que je lui ai demandé une voiture et puis il ne se passe rien. Et je suis triste, pas simplement parce qu'il ne me donne pas la voiture, non. J'ai suffisamment de sens de l'humour pour le supporter. Mais je suis triste parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il ne m'écoute pas. C'est ça qui me rend triste. Dieu ne me dit plus rien. Ou alors, mes écouteurs sont en panne. Ou peut-être que c'est moi, je me suis un petit peu mis en retrait, je ne ressens plus sa présence, mais il me manque. Je lui parle des fardeaux que je traîne en ce moment, mais il n'y a rien qui se passe. Ou alors, peut-être mes lunettes ne sont plus en état de marche. C'est le vendredi soir. Lundi, Alain ouvre son ordinateur, il découvre un email, un chrétien qui a eu des bonnes oreilles, il a écouté ce que Dieu lui a dit dans son cœur, Et Alain le connaissait depuis très longtemps, mais il n'avait pas revu depuis ce temps-là. Et dans son mail, Jésus me dit de te donner une voiture. Voilà. Et une belle voiture, super classe, Honda, 4x4, diesel, siège en cuir, catapulte, parachute, rétrofusée. Bon, là, bien sûr, vous comprenez, c'est un humoriste. Hein, donc il... bon, bref. Et c'est la fête pour toute la famille autour de la table. Il ne parle plus que de cette belle voiture. Jésus a répondu. Néanmoins, les fardeaux de la vie quotidienne, ben, ils n'ont pas tous disparu. Hein, mais au moins, ça a permis à Alain de se rappeler que même s'il faut attendre la réponse, mais Dieu est à côté de nous. Jésus répond. Et c'est merveilleux d'avoir un ami qui écoute, même si la réponse n'est pas aussi vite qu'on ne le voudrait. Hein. Mais bon, ça, c'est les mystères de Dieu. Alors, côté voiture, on a aussi eu des expériences de voiture. On avait une vieille Renault 18 qui avait peut-être 14 ou 15 ans. Je devais l'emmener au garage pour changer le démarreur. Entre-temps, il y avait une réunion intéressante un mardi soir à l'église et nous nous préparons pour y aller. On s'assoit dans la voiture avec Laurence, je démarre. Silence total, rien. Bon, on est chrétien, donc on prie. Seigneur, tu vois, il y a une belle réunion à l'église, on veut y aller, permet que la voiture démarre. Broum ! Et c'est parti. Ben ouais. La réunion est tellement bien. Par contre, je ne sais plus de quoi ça parlait. Et après la réunion, nous remontons dans la voiture. Puis là, je dis, oh, ça a marché à l'aller, ça va marcher au retour. Rien. Vraiment. Seigneur, tu nous mets à l'épreuve. Et on prie vraiment, pardon Seigneur, je n'ai pas voulu prier, mais c'est toi qui es tout puissant. Je redémarre, vroom, c'est parti. Franchement, c'est une bonne leçon qui nous apprend que Dieu est bon. Il pourvoit nos besoins, mais il nous apprend surtout à prier sans cesse. Et justement, la prière, c'est aussi un sujet important. Jésus est l'expert en prière. Il nous a laissé plusieurs modèles. On en a d'ailleurs étudié plusieurs, effectivement, dans les études du groupe de maison, tout au long de l'année. On a étudié le Notre Père, donc je ne reviens pas plus là-dessus. Alain donne beaucoup d'exemples de prière dans ses différents témoignages, une dizaine. Ça montre que la prière, pour lui, c'est aussi important. Hein, pour en parler jusqu'à 10 fois, mais bien sûr, je ne vais pas tout reprendre, je vais juste en reprendre un. Chemin de prière, il ne faut pas forcer. Ça, c'est lui qui le dit. Ai-je la paix pour aller au boulot aujourd'hui ? Là, il est humoriste. Hein. Il se moque un petit peu des gens. Bref. Oh, je ne sais pas trop si je vais aller au boulot. Oh, faudrait que ça vienne du cœur. Il ne faudrait pas que ce soit une obligation. Si telle est ta pensée à ton lever, il se pourrait bien qu'à son coucher, ton patron suive ton exemple. Oh, je ne sais pas trop si j'ai envie de payer mes salariés aujourd'hui. Je n'ai pas la paix pour ça. Je vais peut-être attendre le mois prochain. Bon, vous voyez, il faut prendre ses responsabilités quand même. Raccourci. Je passe souvent par des raccourcis dans la forêt pour me rendre à mon atelier. Je vous rappelle qu'il a une maison. L'atelier est au rez-de-chaussée. L'appartement est à l'étage. Mais le raccourci, c'est de passer par la forêt parce que sinon, il n'a pas le temps de prier. Pensez à ça. Si on n'a pas le temps de prier, les catastrophes arrivent. Voilà, donc il habite juste à l'étage au-dessus, mais c'est vraiment un gain de temps et que je ne perds pas. Surtout quand je ne me perds pas dans la forêt. J'y ai un rendez-vous avec Dieu. Ou à l'inverse, c'est Dieu qui a rendez-vous avec moi. Oui, ça, c'est possible aussi. Donc, quand on perd du temps avec l'essentiel, avec la prière, nous en gagnons. Moi, je l'ai aussi vécu et je vous encourage à tester. Voilà, le temps de mes envies a beau être d'un tempétueux tyrannique ou en vacances, ça n'y change rien. Ce n'est pas mes envies qui commandent. Voilà. Mais Dieu est au courant. Hein. Stop religion. Sur le chemin de la forêt, dans un moment d'inattention, je sers parfois à Dieu un couplet de phrases. Oh, merci, oh Dieu, ce genre de phrases. Dans la Bible, Jésus disait, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ben, », ce n'est pas cela que Dieu va faire entrer dans son royaume. La religiosité, non. Là, c'est moi qui fais le commentaire. Imaginez quelqu'un qui vous parle comme ça, c'est trop nul. Et je ne suis pas, moi, pour faire mes devoirs de prière, mais pour chercher Dieu sincèrement. Donc, je marche le long d'une prairie avec ce sentiment un peu ridicule de parler tout seul. Pourtant, Jésus a dit « croyez en moi ». Il n'a pas dit « ressentez quelque chose. Il a dit « croyez ». Et donc, croire, c'est accepter, même si on ne ressent pas. Je fais des petits commentaires aussi, parce que des fois, vous ne suivez pas bien. Alors, Alain, je lui explique avec conviction le topo de mes galères. « Ah là là, je n'arrive pas à percer avec mes bandes dessinées dans les grands magasins. » Tous ces décideurs, quand je leur présente mon projet, me disent « Ah non, sans cesse, on ne veut pas ceci. » Bref, ça ne marche pas. Et Alain dit « Seigneur, il y a un mur devant moi. Donne-moi un char avec un chasse-neige devant. » Chasse-neige, alors c'est Alain qui se moque. « Chasse-neige, c'est un truc suisse. » Bah ouais, mais ici en Auvergne, on connaît aussi. Hein. Il n'y a pas que les Suisses qui ont de la neige. Et donc, pour que je puisse vraiment casser ces murs, mes prières sont accompagnées de grands gestes à l'italienne. Voilà, Seigneur, tu vois, il faut que ça bouge. Bon, bref. Et en rentrant chez moi, je suis accueilli par un ami. Alors lui, il l'appelle Pomme de terre mayonnaise stu. Bon, c'est une blague. Je raccourcis. Je vous invite à lire le bouquin. Hein. On ne s'ennuie pas. Alain, je priais pour toi et je t'ai vu dans une vision. Tu étais sur un char et devant, il y avait un chasse-neige. Et là, c'est amusant. Hein. Alain, il dit à Dieu, mais Seigneur, si je prie et que tu racontes toutes mes blagues aux autres, mais ça ne va pas. Et en fait, Dieu répond à travers cet ami et dans les jours qui ont suivi, il a pu placer ses bandes dessinées dans les magasins. C'est pour dire que Dieu interpelle aussi nos proches hein, pour interagir avec notre vie de prière. Et personnellement, lorsque nous étions missionnaires au Cameroun, je venais de prendre la responsabilité d'un collège qui avait 250 élèves, 15 enseignants, un internat pour 150 jeunes. À la rentrée, au mois de septembre, les parents se pressaient pour faire inscrire leurs enfants. Cet établissement avait une assez bonne réputation. Et ils voulaient parfois même, l'enfant n'avait pas les bulletins de notes, mais ils voulaient quand même l'inscrire. Ben, enfin, c'est un peu compliqué des fois. Hein. Bref. Il y avait du monde au bureau depuis 7 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Même le midi, j'arrivais parfois même pas à m'abstraire du bureau pour aller manger. Et certains, ils venaient même à 21 heures pour dire, en disant, c'est pour ne pas déranger. Ben oui, parce que forcément, dans la journée, ça dérange, n'est-ce pas? Après une semaine de ce rythme, j'étais totalement à bout. Je m'y retrouvais plus dans mes papiers, dans les feuilles de reçus, dans les inscriptions. Bref, c'était la débandade, il y avait des piles de papiers qui s'accumulaient en retard. Et j'ai prié au secours à Dieu. Et dans cette prière, j'ai lu le psaume 37, et en particulier le verset 7, qui dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Gardez le silence. Une autre traduction disait « Reste tranquille. » Voilà, c'est super, non? Même quand tu as une pile de problèmes, tu restes tranquille. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ta part, mais... Et donc, cette expérience a vraiment changé mon style de travail. Et lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, eh bien, je prends le temps de prier et je reste tranquille. Et je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires où les choses se sont passées de façon miraculeuse. Là, j'ai utilisé quelques exemples de la vie quotidienne, la maison, la voiture, le temps de prière aussi. J'aimerais aussi parler du salut. Le salut... Et c'est vrai que dans la Bible, on connaît tous Jean 3, 16. Mais je vais quand même le lire parce que c'est un verset qui vaut son pesant d'or. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Là, on parle du salut. J'invite l'équipe à mettre une petite illustration. Autre verset que j'aime beaucoup, c'est le verset du même chapitre, le verset 18. Celui qui croit en Jésus, en lui, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ces deux versets de l'évangile de Jean sont tellement clairs. Non, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Et Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, ouais, on voit un petit peu quand même Jésus comme un bateau. Et une personne qui a des problèmes jusqu'au-dessus de la tête, mais qui décide de s'accrocher à cette bouée qui va lui permettre de bénéficier du salut. Et justement, Alain Auderset, lors d'un voyage en Inde, il s'est rendu compte que là-bas, les gens, même s'ils ont la Bible, ils ne savent pas lire. Et dans la rue, tout est fait sous forme de posters imagés. C'est que des images. Voilà, tous les messages, que ce soit les messages anti-Covid, lavez-vous les mains, on ne le met pas par écrit, on le met que sous forme d'illustration. Et donc, ça a donné l'idée à Alain de faire ce genre de poster. Alors, il raconte des périodes difficiles de sa vie où, pendant un certain temps, il avait l'impression que les problèmes étaient là. Donc, il était triste. Il avait vraiment une chape de tristesse sur lui. À un autre moment, il avait une chape de destruction sur lui. Je ne lis pas tout parce que ça va être trop long. Mais lorsqu'il prie au nom de Jésus, esprit de destruction, va-t'en. D'un seul coup, un calme surnaturel arrive. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Jésus, c'est plus fort que la mort. C'est ça. C'est cette bouée de sauvetage, elle est pour tous. Elle est pour chacun de nous. Et pour les personnes illettrées, comme en Inde, ce poster a été diffusé et ça parle. Moi-même, comment ai-je compris le salut ? Quand j'étais jeune, je suis allé à l'église avec mes parents, à l'école du dimanche, au culte. À 15 ans, je suis parti en internat et j'ai un peu perdu cette habitude. Un an plus tard, j'étais dans le train pour rentrer chez moi pour les vacances. Dans mes pensées, j'ai vu que si ce train faisait un accident et si je mourais, je partais directement en enfer. Mais ça n'a pas été plus loin. Quelques semaines plus tard, pendant les vacances, j'étais dans un camp de jeunes de l'église, dans les Alpes, et le pasteur qui a organisé, qui a animé le camp, me dit, on était autour du feu, en train de, voilà, hein, comme les jeunes font dans les camps de vacances, et il m'interpelle, il me dit, Hervé, tu peux prier. Là, je réfléchis à 1000 à l'heure, et je lui dis, ben non, je ne suis pas chrétien, non. Mais en fait, je suis interpellé par le Saint-Esprit et je dis oui. Je dis oui à Jésus, je vais prier. Et c'est comme ça, le salut, ce n'est pas de venir à l'église. Le salut, ce n'est pas d'avoir une religion. Le salut, c'est de dire oui à Jésus. Et comme je l'ai fait en ce temps-là, on m'a interpellé et j'ai répondu oui. Franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous engage, je vous encourage à le faire. Dites oui à Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Il y a des combats aussi. L'apôtre Paul a vécu un combat. On le lit dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 à 9. Voici ce qu'il dit. « Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, » quelques versets plus haut, Paul dit « J'ai été emmené jusqu'au septième ciel pour avoir des révélations. » Et c'est vrai qu'il aurait pu tomber dans l'orgueil en se disant « Ah, moi je suis monté là-haut et pas vous. Hein. » Non, il dit « Ces révélations extraordinaires. » Mais j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et merci à Eric tout à l'heure qui a animé la louange, en reprenant ce thème, c'est dans notre faiblesse que Dieu met sa confiance. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes plus forts que les autres, mais il l'a bien dit. Nous sommes des créatures plus faibles que les autres créatures que Dieu a mises sur terre. Et justement, plus faible que le lion, ça tombe bien parce que Alain a une histoire de lion à raconter. Il a vu ou lu dans la Bible l'histoire des héros de David, dont l'un d'entre eux est descendu dans la citerne pour tuer le lion, parce que la citerne, c'est là où il y a la réserve d'eau, mais il y avait un lion qui empêchait les gens d'aller boire. Donc, c'était quand même un petit peu gênant. Et donc, un des soldats, des héros de David, a tué le lion. Et voilà Alain qui dit « Moi, je dois témoigner à des foules de curieux. » Je dois changer la face du monde avant le petit déjeuner. Je dois dire Alibaba et les 40 voleurs d'un seul souffle. Et Alain est seul dans son jardin. Et il dit à Jésus, est-ce que je dois accepter ce défi ? Montre-moi ta réponse. Il rentre chez lui dans son appartement et son fils de 10 ans l'interpelle. Papa, je viens de lire un passage de la Bible. Alain est interpellé. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un guerrier du roi David qui, juste armé d'un bâton, descend dans la citerne pour tuer le lion. Ce type est bizarre. Il n'a pas eu peur. Faire un truc pareil ? Il n'avait pas la télé pour s'occuper au lieu de descendre tuer le lion ? C'est vrai que David est souvent comparé à Jésus et il devait être très fier d'avoir un de héros capable de descendre dans la citerne. Et c'est vrai, Alain compare cette citerne avec l'eau qui est au fond aux gens, à nous, les gens qui sont dans la ville, les gens qui sont assoiffés de spiritualité. Mais il y a des lions. Les lions, c'est l'incrédulité, la laïcité, les excuses, etc., qui sont à des endroits stratégiques qui empêchent les gens d'entrer dans l'Église. Alors, entrer dans l'Église comme religion, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas intéressant, mais entrer dans l'Église, ne serait-ce que pour entendre la parole. Et donc, Alain accepte ce défi. Oui, moi, je descendrai et je permettrai à ces lions, hein, par exemple, la laïcité, on va la bannir, pour que tout le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu. Alors, des combats avec Laurence, on en a aussi connu. Et dans la vie chrétienne, le combat est même quotidien. Il faut persévérer. Lorsque nous étions jeunes mariés, nous avons eu une attaque particulièrement violente. Laurence ne pouvait pas avoir d'enfant et dans ses rêves, le diable lui a promis de lui en donner si elle se prosternait devant lui. Après plusieurs nuits de cauchemars, elle m'a raconté tout ça. Nous avons prié en prenant position en Jésus-Christ face au pouvoir des ténèbres. Et Jésus a remporté la victoire. Les cauchemars ont pris fin et dans les années qui ont suivi, nous avons eu deux merveilleux enfants. Et oui, c'est une réalité. Il y a des difficultés, mais Dieu ne nous abandonne pas. Un dernier exemple, et là on peut voir cette image que j'apprécie beaucoup. Jésus est avec nous tous les jours, mais vous voyez Alain, c'est le petit bonhomme, il faut faire l'effort de s'accrocher à la main de Jésus. Si on garde les mains dans le dos ou dans les poches, ben non, ça ne marche pas, hein. Et Jésus l'a dit à ses disciples, et il nous l'a dit à nous à travers la parole, c'est sa promesse. Il n'est pas avec nous comme un génie, n'est-ce pas, dans sa lampe, qu'on peut frotter, et puis une fois qu'il sort, on peut lui demander tout et n'importe quoi pour satisfaire nos caprices. Non. Il est comme un ami. Il est à nos côtés. Il sait même mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et en particulier, nous avons besoin de sa présence. Nous n'avons pas besoin qu'il n'y ait plus de difficultés, parce que la vie sans difficultés, ben, ça n'existe pas. Ça s'appelle la mort. Dans la mort, il n'y a plus de problème. Mais dans la vie, il y a toujours des difficultés. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un ami à nos côtés. Et Jésus le dit bien dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, lorsqu'il dit « C'est moi qui suis le vrai cep. » Le cep, c'est le pied de vigne. Mon père est le vigneron. Tout sarment, les sarments c'est nous sommes attachés à Jésus le cep et les sarments nous sommes attachés à ce pied de vigne. Donc tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Tout sarment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. La taille, c'est sous-entendu des épreuves. Ça veut dire que la vie n'est pas facile. Il y a aussi des moments de taille, mais le but, c'est de porter du fruit. Et donc, pour illustrer cela, vous voyez ce poster, une image parle mieux qu'un grand discours, donc je n'en dis pas plus. J'ai expérimenté il y a quelques mois que oui, Dieu a mis un ange gardien à mes côtés. depuis 2 ans et demi que nous habitons à Clermont. On habite un petit peu en altitude. Et donc, ces derniers temps, je faisais souvent la route pour venir travailler à Clermont. Et en hiver, bah oui, en Auvergne, il y a de la neige. Et chez nous, au mois de novembre, il y avait jusqu'à 40 cm de neige. Éric s'en souvient, je crois. Il était juste venu nous visiter ce jour-là. On a laissé les voitures à 2 km de la maison parce que la route n'était plus carrossable. Et on a fini à pied. Et un jour, la route, quand je me rendais sur Clermont, la route était très glissante. Et dans mon habitude de voir Jésus à mes côtés, ben, je prie tout simplement. Jésus, tu vois, la route est glissante. Hein. Garde-la bien, garde-la bien dans la trace. Mais ça ne m'a pas fait ralentir. Hein. J'ai dit à Jésus, tu gardes la voiture, mais moi, je continue à rouler. Hein. Et puis, juste après un virage, il y a une voiture devant moi qui n'avance vraiment pas vite. Elle roule tellement lentement que je suis obligé de ralentir. Alors, j'ai une première pensée, mais avance alors, vas-y. Mais aussitôt, je comprends. Si je demande à Jésus de me garder sur la route, il a mis devant moi un ange gardien pour m'obliger à rouler à la bonne vitesse. Voilà, il ne faut pas toujours s'énerver après les gens qui roulent moins vite. C'est des anges gardiens qui sont là devant nous pour nous aider à rouler à la bonne vitesse. Et je dis merci Seigneur. Parfois, ça m'énerve quand même, mais bon. Ouais. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous encourage à lire le livre de Recettes. Je peux vous prêter mon exemplaire si jamais il est... Non, il paraît qu'il est là-bas, hein, à la bibliothèque. Mais je peux quand même vous le prêter. Et surtout, Alain Audersette, ce n'est pas notre gourou. C'est lui qui pointe vers Jésus. Hein, donc, lisez la Bible avant tout. Mais il nous aide à travers ces images à mieux comprendre qui est Jésus et à nous aider justement à avoir une attitude pour vivre cette foi au quotidien. Hein, la foi, c'est ce qu'on vit au quotidien, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sort que le dimanche matin pour venir à l'église. Voilà, donc vivez avec Jésus à vos côtés, profitez de ce temps de vacances pour lire les bouquins qui sont à votre disposition, il y en a des très bons, et lisez aussi votre Bible. Je vous remercie et bon dimanche. Je laisse la parole.